rester avec nous pour le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
L'heure du changement a-t-elle sonné au Sénégal ?
Même si les résultats de l'élection présidentielle ne sont pas attendus avant plusieurs jours, l'opposition semble avoir pris l'avantage. De son côté, le camp du pouvoir assure qu'il y aura un second tour. Nous serons en direct de Dakar dès le début du journal. On se rendra également en Russie où, après l'attaque meurtrière de vendredi, le Kremlin se refuse toujours à commenter la revendication fournie par le groupe djihadiste État islamique, arguant que l'enquête est toujours en cours. Une manière aussi, on le verra, pour Moscou, de continuer à évoquer la piste ukrainienne. L'actualité en France est tout d'abord le relèvement du plan Vigipirate à son niveau maximal. On fera le point également sur le troisième jour consécutif de grève pour le journal La Provence, et ce malgré la réintégration hier soir du directeur de la rédaction. Enfin, un an jour pour jour après la manifestation contre un projet de méga-bassine à Sainte-Soline. On se demandera avec notre invité aujourd'hui, Lucien Tabouret, si cet événement a transformé ou non le militantisme pour l'écologie. Après 3 années d'agitation violente et de manifestations parfois sanglantes conjuguées aux tensions sociales ainsi qu'au flou longtemps entretenu par le président sortant sur une éventuelle candidature à un troisième mandat, c'est dans un climat étrangement serein que les Sénégalais attendent toujours de connaître l'issue de l'élection présidentielle organisée hier et dont les premières tendances placent le candidat anti-système devant celui du pouvoir, ce qui, le cas échéant, traduirait évidemment un changement radical, un véritable séisme politique et même si systémique. Alors les résultats officiels ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine, et tout l'enjeu désormais sera de savoir si Bassirou Diomaye Faye obtiendra ou non la majorité absolue. De son côté, la coalition au pouvoir maintient l'impression et a déjà fait savoir qu'un second tour serait nécessaire pour désigner le vainqueur. Omar Ouamane, bonjour.
Bonjour Thomas.
Envoyé spécial de France Culture à Dakar, rappelons peut-être pour commencer que Bassirou Diomaye Faye dormait en prison donc il y a encore 10 jours à peine avant d'être désigné par le chef de l'opposition disqualifié Ousmane Sonko. On le décrit comme un homme plutôt discret et taiseux et qui a 44 ans pourrait donc devenir Omar le plus jeune président de l'histoire du pays.
Oui, effectivement, il est né en 1980 dans la région de Thiès à l'est de Dakar, diplômé de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il intègre la direction générale des impôts où il devient inspecteur. C'est là qu'il va rencontrer un autre inspecteur des impôts, Ousmane Sonko. Les deux hommes vont se lier d'amitié. Leur point commun, la volonté de combattre la corruption qui gangrène le Sénégal. En 2014, Ousmane Sonko crée le PASTEF, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, un parti de gauche, panafricain et résolument souverainiste. Bassirou Diomaye Faye en devient le secrétaire général. Arrêté en 2023 et inculpé pour outrage à magistrat, il est emprisonné, tout comme Ousmane Sonko. Les deux hommes vont finalement être libérés le 14 mars, vous l'avez dit Thomas, 10 jours avant le scrutin. Dans le cadre de la loi d'amnistie, la candidature d'Ousmane Sonko est invalidée, contrairement à celle de Bassirou Diomaye Faye, qui devient candidat de substitution. Les deux hommes ont su capter les voix de la jeunesse, carburant de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, qui pourrait bien succéder à Macky Sall.
Alors, si effectivement...
La France n'est...
Si effectivement Bassirou Diomaye Faye remportait l'élection, Marc, adviendrait-il des liens entre Dakar et Paris ?
Alors, j'ai rencontré Bassirou Diomaye Faye la veille de l'élection, vous allez l'entendre. Il a confirmé vouloir sortir du franc CFA et créer une monnaie locale. Il souhaite également revoir ses relations avec la France. Il les veut plus équilibrées sur le plan économique, mais il ne souhaite pas rompre avec l'ancienne puissance coloniale. Bassirou Diomaye Faye.
Non. La France n'est pas sortie du Sénégal, elle est au Sénégal. Le partenariat entre la France et le Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, est un partenariat correct, mais qui doit être revisité. Il doit être plus gagnant pour nous que ce qu'elle a été. La France a quitté le Mali, elle a quitté le Niger, elle a quitté le Burkina. C'est juste ça. Si la France ne comprend, ce serait salutaire. Si elle ne le comprend pas, malheureusement, les mêmes causes produiront les mêmes effets et ce serait regrettable.
Alors il souhaite, Thomas, il souhaite également renégocier les accords de pêche et de défense. Il veut revoir les contrats gaziers et pétroliers pour mieux redistribuer les richesses, car le Sénégal devrait commencer à produire du gaz et du pétrole dans les prochains mois.
Merci Omar Waman en direct donc de Dakar avec Jérémy Tuil pour les moyens techniques. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se sont encore succédés toute la nuit dans la bande de Gaza. Après plus de 5 mois de guerre, les négociations sur une trêve entre le Hamas et Israël ne montrent toujours aucun signe de progrès. Et c'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU tentera à nouveau aujourd'hui d'adopter une résolution exigeant cette fois-ci un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Hier, le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est d'ailleurs lui-même rendu aux portes de Gaza dévastées et affamées pour appeler à mettre fin au cauchemar.
Aux États-Unis, la journée promet d'être longue pour Donald Trump.
Oui, déjà condamné dans 2 procès civils et inculpé dans 4 affaires pénales, le magnat de l'immobilier et tribun populiste a en principe rendez-vous avec la justice pour se faire signifier la date de son prochain procès dans une affaire de paiement à une actrice de film porno. Et puis, c'est encore devant cette même justice de l'État de New York que le candidat conservateur à la prochaine élection présidentielle devra apporter la preuve qu'il dispose bien de près d'un demi-milliard de dollars pour payer les amendes astronomiques auxquelles il a été condamné pour fraude financière, faute de quoi, Loïc Loré, une partie de ses biens pourrait être saisie.
Jeudi dernier, le New York Post affirmait que Donald Trump envisageait de ne rien faire et de laisser la justice s'emparer de la Trump Tower. En réalité, difficile de savoir ce qui attend l'homme d'affaires, jusque-là incapable de rassembler ses près de 500 millions de dollars de caution. Première hypothèse, improbable, l'ex-président signe un chèque ou obtient un prêt, mais une 30aine de sociétés spécialisées lui auraient déjà dit non selon ses avocats. Deuxième hypothèse, la justice va dans le sens de son appel et réduit la somme à payer, voire le dispense carrément de mettre la main à la poche. Dans le cas contraire, la saisie d'une partie de ses biens pourrait immédiatement débuter, le plus simple consistant à geler ses comptes bancaires avant la confiscation beaucoup plus compliquée de son patrimoine immobilier. L'image de Donald Trump en serait en tout cas ternie, celle d'un milliardaire pas aussi riche qu'il le prétend.
Les 4 auteurs présumés de l'attentat qui a fait au moins 137 morts et 150 blessés à Moscou vendredi dernier ont tous été arrêtés et placés en détention provisoire.
Tous sont des ressortissants étrangers, notamment tadjiks. Pour autant, le Kremlin se refuse toujours à commenter les revendications du groupe État islamique pour pointer du doigt l'Ukraine. De quoi laisser perplexes forcément les habitants de la capitale qui, tout en pleurant leur mort, sont partagés quant à la version des faits qui leur sont présentés. En clair, ce matin encore, de très nombreuses questions demeure. Les Russes meurtris disent tout à la fois leur sentiment grandissant d'insécurité, mais aussi leur incrédulité, car si les autorités ont toujours vanté la puissance de leur appareil sécuritaire, elles n'ont pas pu de fait empêcher cette tragédie. Alors est-ce la raison pour laquelle le Kremlin continue à vouloir incriminer Kiev? Élément de réponse avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Officiellement, pour le Kremlin, l'enquête est en cours. Nous n'en sommes qu'aux éléments préliminaires. Pas question donc, pour cette raison, d'évoquer l'éventuelle responsabilité de l'État islamique dans cet attentat, malgré les revendications jugées crédibles, malgré la nationalité tadjik d'au moins un suspect, originaire donc d'un pays qui a été déjà connu dans le passé pour avoir fourni de nombreux combattants à Daesh. Mais comme souvent en Russie, il faut regarder le contre-champ, les relais habituels du pouvoir. La grande patronne de la chaîne RT, Margarita Simonian, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l'animateur de talk show, Vladimir Solovyov, tous ne désignent qu'un seul suspect, l'Ukraine et par extension les États-Unis. La piste du terrorisme islamiste ne tient pas pour ces propagandistes référencés, dont les propos devancent souvent les décisions du Kremlin. Les premiers interrogatoires des suspects, malmenés par le FSB et diffusés sur les réseaux sociaux, vont également dans ce sens, quand on les voit affirmer qu'ils ont commis cet attentat pour de l'argent. Le pouvoir russe est manifestement en train de préparer les esprits à une attaque fomentée à Kiev et évite les questions autour de la réactivité de ces services de sécurité et de leur incapacité à prévenir cette attaque.
Alors, compte tenu de la revendication de cette attaque par le groupe État islamique, la France a, elle, décidé de relever son niveau d'alerte au stade maximal, celui d'urgence attentat, sans compter qu'au-delà du contexte géopolitique très particulier, voilà plusieurs jours déjà que des dizaines d'établissements scolaires de la région parisienne, des Hauts-de-France et d'Alsace reçoivent des menaces d'attentat. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Au total, 5 académies sont touchées. Ce matin d'ailleurs, plusieurs collèges et lycées ont été fermés. les services de l'État se disent extrêmement vigilants, notamment sur les intrusions informatiques. Et puis, Hakim, un certain nombre de contrôles de sécurité plus fréquents vont être renforcés donc à l'entrée des établissements.
Oui, Thomas, rien que dans les Hauts-de-France, ce sont pas moins d'une trentaine d'établissements qui ont fait l'objet de menaces d'attentats via les environnements numériques de travail, les fameuses ENT. Dans ces établissements, les mesures de sécurité ont donc été renforcées dès la reprise des cours ce matin avec des équipes de gendarmerie, de police, ainsi que les équipes mobiles de sécurité du ministère de l'Éducation nationale. Face à la grande inquiétude d'une partie des enseignants et des élèves, des cellules psychologiques ont également été mises en place, comme nous l'indique ce matin le recteur de l'Académie d'Amiens, Pierre Moya, que nous avons pu joindre.
Moi, je suis allé ce matin dans 3 établissements. J'ai trouvé qu'il y avait de l'inquiétude, certes, chez un certain nombre d'élèves, mais chez les professeurs, en tout cas, une grande sérénité, notamment parce que ils avaient pu être informés. Donc, pour répondre à cette inquiétude et à cette angoisse, nous avons mis en place dans chaque établissement concerné une cellule d'écoute pour que les élèves ou les personnels puissent, s'ils le souhaitent, pouvoir exprimer cette inquiétude. Et puis, un message de grande vigilance et de grande responsabilité de la part des enseignants.
Une vigilance qui prend une dimension particulière pour les enseignants de Hauts-de-France, car c'est dans l'Académie de Lille qu'a été assassiné en octobre dernier Dominique Bernard, professeur de français à Arras, rappelle Jean-François Caramet, délégué départemental du SNES à Lille.
Depuis, si vous voulez, le mois d'octobre, on est déjà dans un contexte qui est assez anxiogène. Dans l'établissement, on a régulièrement des menaces qui sont lancées, sauf que là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un aspect massif lié à l'intrusion dans le système ENT. C'est ça qui pose problème. Pour ce qui est de l'anxiété, elle est présente de toute façon. Là, elle est renforcée par le fait qu'on a de nombreuses situations qui sont simultanées.
Pour rappel, après la mort de Dominique Bernard, un pic avait été atteint au mois de novembre avec plus de 800 alertes à la bombe dans les établissements en France.
Merci Hakim Kasmi. Notre combat contre la drogue et les dealers est total. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lequel s'est rendu ce matin à Lille où une opération Place Nette a été lancée, ainsi qu'à Dijon, Lyon, Sevran et Colombes, sur le même modèle que celle menée la semaine dernière à Marseille. Après la mise à pied, c'était vendredi dernier, du directeur de la rédaction du journal La Provence, en raison d'une une jugée ambiguë sur la visite justement d'Emmanuel Macron à Marseille. Le journal ne paraîtra pas encore aujourd'hui, 3e jour de grève consécutif, et ce malgré la réintégration hier soir du directeur de la rédaction. Sauf que les syndicats estiment que rien n'est réglé, ils demandent à présent des garanties sur leur indépendance éditoriale. Un rassemblement était d'ailleurs organisé ce matin devant le siège du journal. Reportage signé Mathilde Vinceneux.
Les journalistes de La Provence brandissent la fameuse une jugée ambiguë par leur direction et des pancartes. Journalistes en colère, Saadé dépasse les bornes. Message à leur actionnaire, le milliardaire Rodolphe Saadé, présenté comme proche d'Emmanuel Macron, car les journalistes affirment que cette une n'a pas déplu aux lecteurs, non, mais bien aux politiques. Audrey Letellier du Syndicat National des Journalistes de La Provence.
On n'a pas eu un courrier de lecteurs. En revanche, on a vu effectivement sur les réseaux sociaux des tweets de certains élus locaux qui se sont émus de la une et qui se vantait d'avoir tagué l'Élysée.
Pour Sylvain Pignol du Syndicat national des journalistes à La Provence, la réintégration du chef de la rédaction ne suffit pas à rassurer.
La direction a commencé à rétropédaler, mais nous ça va pas assez loin. On veut vraiment obtenir les garanties qu'on réclame. Notamment avec un dispositif qui doit permettre de ne pas décider de mettre à pied le directeur de la rédaction sans aucune discussion, sans aucune concertation sur le simple fait d'une une qui, je le rappelle, n'avait rien de scandaleux, était parfaitement intègre sur le plan déontologique.
Les journalistes aimeraient des garanties écrites dans une charte d'indépendance et publier un message à leurs lecteurs pour expliquer les raisons de leur grève, réaffirmer que cette une n'était pas une erreur comme le soutient encore la direction. Ils décideront aujourd'hui de la suite de leur mouvement après une assemblée générale.
Un an après une condamnation qui lui avait fait perdre tous ses mandats, l'ex-maire de Toulon, Hubert Falco, soutien du chef de l'État, sera jugé à partir d'aujourd'hui par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour recel de détournement de fonds publics. Emmanuel Macron est arrivé en Guyane ce matin où les élus attendent du chef de l'État qu'il favorise une révision constitutionnelle inspirée de la marche de la Corse vers l'autonomie. Et puis, cette visite intervient également à moins de 3 mois des élections européennes, étant entendu que le département avait en en l'occurrence massivement voté pour le Rassemblement national en 2022.
C'était il y a un an jour pour jour. La manifestation contre un projet de méga-bassine à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres marquait le paroxysme de l'opposition entre les adversaires de ces installations et leurs défenseurs.
Oui, les images des affrontements, le décompte des blessés, comme la controverse autour de la difficulté pour les secours de parvenir aux victimes avaient été, on s'en souvient, abondamment commentées. Alors un an après, cette manifestation a-t-elle transformé le militantisme pour l'écologie? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Lucien Tabouret, doctorant au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Jusqu'à quel point cet événement constitue donc un moment important dans l'histoire récente des mobilisations écologiques? En clair, est-ce que cette manifestation a marqué une rupture vis-à-vis des formes d'engagement qui étaient, disons, plus représentées jusqu'à présent?
On peut parler peut-être plutôt de tournant que de rupture, dans le sens où ça concrétise et ça accélère des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Et c'était d'ailleurs noté par une note des renseignements territoriaux qui soulignait le succès des soulèvements de la Terre dans leur capacité à faire converger des personnes déjà engagées dans les mouvements écologistes ces dernières années autour de la création de tactiques particulièrement efficaces médiatiquement. On a pu voir aussi une sorte de lien entre le militantisme des villes qui s'était exprimé par les manifestations pour le climat avant de décliner et une forme d'opposition aux projets locaux qui a été ravivée par Sainte-Soline. On se souvient en France notamment de la lutte du Larzac, de l'opposition à Notre-Dame-des-Landes, et c'est sur cette lutte que justement la stratégie des soulèvements de la Terre s'est construite.
Quelle différence notable feriez-vous avec d'autres formes d'engagement précédentes, comme par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou bien Extinction Rébellion?
Alors concrètement, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc, on a bien cette idée qu'il faut s'opposer à des projets concrets plutôt que de demander des mesures abstraites, comme ça a été reproché à Extinction Rébellion. Mais contrairement aux zones à défendre, l'idée est de se déplacer cette fois-ci de site en site par des vagues d'action. Et là, c'est un mode de fonctionnement qui a été repris d'Extinction Rébellion, dont l'objectif au début était à Londres, à Paris, dans les capitales européennes, de répéter des vagues d'action tous les 6 mois. Ce qu'on retrouve avec les soulèvements de la Terre qui parviennent en fait tous les 6 mois à mettre la focale sur des projets contestés d'aménagements qui paraissent néfastes et contre-productifs aux égards des enjeux de préservation de l'environnement.
Quel regard les organisations plus institutionnelles, donc par exemple le parti écologiste ou bien des ONG anciennes, portent-elles sur ces nouvelles formes d'engagement justement?
Oui, ça aurait pu être une forme de test, Sainte-Soline, et ça l'a été, de voir le soutien des différentes composantes du mouvement écologiste à cette manifestation massive. Et en fait, on a pu voir dans l'organisation aussi des personnes issues de ELV encore à l'époque, et des ONG comme Greenpeace qui étaient présentes. Et d'ailleurs, dans les soulèvements de la Terre, on retrouve des organisations comme ATTAC du mouvement altermondialiste. Et on a pu voir, en dépit donc d'interrogations à l'issue de cette journée d'action qui a été marquée par 200 blessés, dont 4 graves, et 2 personnes dans le coma, ce qui a amené à questionner ce rapport à la violence, à l'affrontement. Et finalement, on a vu une unité qui s'est dégagée face à la réponse sévère du gouvernement, où les partis politiques de gauche, l'écologiste, les ONG, ont convergé pour dénoncer la brutalité du maintien de l'ordre qu'on a pu observer à Sainte-Soline.
Un an après cette manifestation emblématique, cette opposition a-t-elle eu un impact sur l'acceptabilité sociale de ces installations, sur le débat qui entoure tous ces projets?
Oui, incontestablement, ça a été propulsé dans l'actualité. Ensuite, la façon dont fonctionne l'opinion publique et l'actualité, c'est de passer d'un sujet à l'autre. Et finalement, il faudrait peut-être distinguer la population française de la population locale qui sera amenée à faire face à ces bassines. Et en tout cas, on peut constater, dans les termes du débat, une forme de première victoire pour les soulèvements de la Terre qui sont parvenus à imposer le terme de méga-bassine plutôt que de bassin de rétention d'eau pour souligner justement l'enjeu d'accaparement de l'eau qui était derrière avec de l'eau pompée dans les nappes phréatiques.
Merci Lucien Tabouret, doctorant, je le rappelle, au Centre donc d'études européennes de politique comparée de Sciences Po, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Aloïs Guérin pour la préparation.
Il est l'un des artistes vivants les plus cotés au monde.
Et il fait de nouveau parler de lui en se jouant, cette fois-ci, des codes même de l'art contemporain. Damien Hirst, le turbulent plasticien britannique, expose en ce moment même 3 sculptures d'animaux au château Lacoste, près d'Aix-en-Provence. Sauf que la date inscrite de création des œuvres n'est pas la bonne. Alors, s'agit-il d'une volonté artistique ou bien d'une tromperie évidente? La question Fanny Imbert reste ouverte.
Deux veaux, une colombe et un requin présentés dans du formol. Sur l'étiquette, une date, 1994. Or, révèle le journal The Guardian, ces œuvres ont été réalisées en 2017. L'artiste britannique s'explique en disant avoir indiqué la date de conception des œuvres, autrement dit la date à laquelle il les aurait imaginées. Une période qui correspond à l'âge d'or de sa carrière. Dans les années 90, il est un plasticien très en vue. Certains critiques d'art, eux, parlent ici d'une trahison, voire d'une tromperie. Les œuvres ont été vieillies artificiellement, avouent les équipes de l'artiste, mais sans aucune volonté d'induire en erreur, disent-elles. Surnommé l'enfant terrible de l'art contemporain, le plasticien est connu pour avoir brûlé ses œuvres en direct ou avoir présenté une série de faux trésors de l'Antiquité lors de la Biennale de Venise en 2017. Le problème ici, c'est que la date peut influencer la réception d'une œuvre, mais aussi sa valeur, son authenticité. Alors, a-t-on le droit de jouer avec la chronologie quand on est artiste? La question agite en tout cas le monde de l'art contemporain.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert sur la Bretagne. La façade atlantique et les Pyrénées jusqu'au rivage méditerranéen. Partout ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction. Et tout de suite, Gérald.